Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque mercredi, Lélie Anvar explore les spiritualités du monde entier, leur littérature et leurs arts sacrés.
Nous allons voyager ce soir, de la Suisse au cœur de l'Inde. Voyage tout intérieur, de la pensée de Jung et de son apport décisif à l'histoire de la pensée occidentale, jusqu'aux Upanishads, texte fondateur de l'humanité, en passant par les pratiques du souffle et du yoga. Cet itinéraire, nous allons le faire en compagnie d'Isée Tardan-Masquelier, une femme qui a elle-même suivi ce chemin et qui en porte témoignage dans ses ouvrages et sa vie. Bonsoir à vous, Isée Tardan-Masquelier.
Bonsoir, Lélie.
Vous êtes docteur en histoire comparée des religions et anthropologie religieuse et vous avez fait votre thèse sur Jung. Et dites-vous, c'est lui qui vous a engagé, invité sur les chemins de l'Inde. Parallèlement à votre travail en philosophie et histoire des religions et des ouvrages que vous avez publiés sur ces sujets-là, vous vous êtes engagé dans une pratique assidue du yoga et vous avez été présidente de la Fédération nationale des enseignants de yoga et directrice de l'École française de yoga qui accueille des personnes en quête de connaissance de soi et forme aussi des enseignants de yoga, ce qui est extrêmement important dans la jungle de l'enseignement du yoga aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous enseignez l'histoire de l'hindouisme à l'Institut catholique de Paris, où vous avez créé et vous organisez toujours le certificat et le DU Culture et Spiritualité d'Asie, une formation originale, surtout quand on pense qu'elle est au sein justement de l'Institut catholique, ouverte à un très large public, centrée sur l'approche de l'altérité culturelle des grandes traditions d'Asie, et tout cela dans une perspective de dialogue à la fois interculturel et interreligieux. Puisque nous nous proposons ce soir de vous emboîter le pas dans ce cheminement, dans cette réflexion, dans cette pratique qui ont été les vôtres, Isée Tardan-Masquelier, commençons, si vous le voulez bien, par vos premiers amours, à savoir l'œuvre de Jung que vous avez découvert, je dis bien découvert parce qu'il s'agit de Jung et non pas seulement de ses œuvres, en cours de philosophie, si je vous ai bien comprise.
C'est tout à fait exact. La lecture de L'homme à la découverte de son âme quand j'avais 16 ans a, je pense, éveillé chez moi quelque chose qui était déjà dans mon berceau parce que j'ai été la fille d'un homme qui était passionné d'histoire des religions, qui lisait Ricoeur, Teilhard, Guénon. Et d'une mère psychanalyste. Donc il y a eu comme une sorte de convergence, je pense. Et c'est Jung qui a éveillé ces potentialités que j'avais reçues et qui m'a permis d'en faire quelque chose, d'en faire un travail universitaire. Alors il a au fond initié deux mouvements chez moi, un mouvement qui était un mouvement critique au sens fort et beau du terme de la critique universitaire, puisqu'il faut se rappeler que Jung était une sorte d'outsider, particulièrement en France où du côté des milieux psychanalytiques, on préférait Freud et Lacan. Et du côté des milieux universitaires aussi, c'était une sorte d'autodidacte qui s'était permis, n'étant pas historien, de s'intéresser à l'histoire des religions et de s'intéresser à l'expérience spirituelle. Donc j'ai pu faire ma thèse grâce à un grand professeur, historien des religions, qui a été vraiment mon maître, qui s'appelait Michel Mélin. Et avec lui, j'ai pu parcourir cette œuvre de Jung qui est finalement complexe, qui peut être ambiguë par certains côtés. Et ma thèse portait sur le fait de savoir si les notions d'inconscient collectif, d'archétype et de symbole chez Jung pouvaient être des outils pour l'historien des religions. Alors, bien sûr, j'ai fait ma thèse sur Jung, mais en même temps, j'ai profité des séminaires de ce grand professeur qui était Michel Mélin. Et dans ces séminaires, on faisait de l'anthropologie comparée des religions. Donc, on travaillait sur les rites et les mythes de l'humanité, une année sur les rites d'initiation, une autre année sur le langage des mystiques, une autre année sur le corps et les rites. Et ça a été une extraordinaire formation. Voilà, donc ça a été ma base. Et puis Jung a initié chez moi un deuxième mouvement qui a été le désir de connaître les traditions de l'Inde. Parce que, j'irai vite ici, mais il s'est beaucoup inspiré des textes qu'il avait à sa disposition. Il avait une connaissance qui était celle des années 1930, qui était encore très imparfaite de ces textes. Mais il cite dans de nombreux de ses ouvrages, par exemple, des traductions des Upanishads. Et il a travaillé avec des indianistes, des sinologues aussi, mais des indianistes. Et là, il m'a donné le goût d'aller plus loin, d'approfondir.
Alors, avant d'arriver justement à cette question de l'Inde, à laquelle donc Jung vous a initié, peut-être revenons à la pensée de Jung elle-même et au mot tout simple d'âme que vous avez employé, qui est dans le titre de ce premier ouvrage que vous avez lu de lui. Et allons peut-être plus avant dans cette idée. C'est-à-dire, qu'est-ce que, si tant est qu'on puisse le dire un peu simplement, qu'est-ce que pour Jung que l'âme humaine ? Et est-ce que c'est pas sur cette question de l'âme, finalement, que la différence va se faire, voire la rupture, entre lui et Freud ? Est-ce que c'est pas vraiment cette notion d'âme qui est au centre, finalement, de leur, du fait qu'ils ont pris des chemins différents ? Puisque pour Jung, la psychanalyse est un travail à caractère spirituel, alors que pour Freud, c'est un travail, sur l'inconscient psychique, et il ne va pas dans quelque chose de plus qui déborde et qui serait l'âme.
C'est vrai que l'hypothèse d'un centre de l'inconscient collectif qui serait présent en chaque être humain est une hypothèse que Freud, pour des raisons multiples, ne pouvait pas accepter. Et après leur séparation, au fond, Jung s'est de plus en plus intéressé à cet aspect. Et il s'est demandé si dans des traditions anciennes ou des traditions qui étaient non européennes, il y avait un équivalent de cette dimension centrale d'un inconscient collectif que lui avait commencé d'appeler « soi ». Et il trouve en Inde un équivalent de ça, puisque les Upanishads, qui sont parmi les textes fondateurs de l'hindouisme, donc on est au milieu du 1er siècle avant notre ère à peu près, ont mis en avant cette idée que dans l'être humain qui est soumis à la souffrance et à l'impermanence, il y a de l'être avec un grand E, il y a une permanence. Alors cette permanence lui est inaccessible dans les conditions normales de sa vie, mais elle est. Et Jung a rencontré cela. Il s'est rendu compte que le vocabulaire de l'Inde était différent du vocabulaire occidental, mais qu'il pointait vers une même réalité qui était ce centre de l'âme, qui est tout différent du moi, bien sûr.
Bien sûr.
Qui est un fond, j'ai dit inaccessible dans les conditions normales de la vie, mais qui aimante l'être humain, qui produit une aimantation et qui l'amène à entamer une quête. Et Jung, ensuite, a beaucoup travaillé sur cette notion de quête. Il en a fait une sorte de processus qu'il a appelé le processus d'individuation. C'est assez proche de ce que les sages de l'Inde avaient évoqué.
Oui, donc ça lui permettait au fond de penser quelque chose qui peut-être dans la médecine de son époque, puisqu'il était médecin, qu'il insistait beaucoup sur le fait qu'il était médecin. Et Freud insistait aussi beaucoup sur la dimension scientifique de son travail. Donc ça lui permettait peut-être de penser cette question de quelque chose qui dépasse infiniment la matière, au sein même, en même temps, de la matière. J'ai quand même l'impression que ce que l'Orient a beaucoup apporté à Jung, c'est aussi de pouvoir penser la non-dichotomie entre le corps et l'âme, qui est un des grands, grands apports de l'Inde, encore aujourd'hui, pour tout un chacun, je dirais, ils étaient ardents masculins.
Absolument. Et puis, ça venait corroborer l'hypothèse d'une universalité de ce fond ou de cette pointe de l'âme. Et malgré la diversité des chemins pour y parvenir, quelque chose qui était commun à tous les êtres humains, qui était l'idée d'un parcours existentiel vers cette dimension d'être. Et ça, pour Jung, ça a été extrêmement important.
Est-ce que vous pensez que ce serait la raison pour laquelle Jung a reçu un accueil quand même si mitigé en France ?
Il est un peu inclassable. Et ça, c'est une difficulté parce que il est psychiatre. Il crée une voie analytique, il l'a appelée la psychologie analytique et pas la psychanalyse. Il emprunte à l'histoire des religions, à l'anthropologie, à la philosophie. Donc il y a vraiment une difficulté à l'intégrer dans une discipline précise. Et ça, je crois que c'est un aspect très problématique pour l'esprit français. Et puis, cette revendication d'une transcendance qui serait interne à l'âme, elle était aussi difficilement recevable.
Est-ce que vous vous êtes aussi intéressé, Isette Ardon-Masquelier, à la dimension justement proprement de cure psychanalytique chez Jung, ou est-ce que c'est vraiment la dimension anthropologie, plus la dimension anthropologie religieuse et philosophique qui vous a intéressé ? Est-ce que vous vous êtes engagé aussi dans un travail à caractère psychanalytique ou on peut s'en passer et être jungien tout de même ?
Je pense qu'on peut s'en passer et qu'on peut très bien travailler. D'ailleurs, dans un premier temps, pour ma thèse, j'ai travaillé de l'extérieur sur Jung. Maintenant, on peut aussi choisir, comme je l'ai fait, d'expérimenter ce parcours psychanalytique. Alors, il se trouve que je ne l'ai pas fait avec un jungien. Mais l'idée d'un chemin d'individuation à expérimenter, ça, c'est quelque chose qui, chez moi, a été très important et m'a engagée dans un travail personnel, oui. De toute façon, les choses sont très liées. Si on veut comprendre un peu en profondeur ce que veut dire Jung, il faut aussi s'engager dans un travail.
Alors justement, comment justement l'expérience de Jung, à la fois une expérience de lecture et une expérience personnelle, au fond, d'un travail sur soi, donc vous a amené et vous a ouvert les portes de l'Inde.
Alors d'abord, Jung cite de nombreux textes indiens.
Et pour lui-même, ça a été très éclairant, je crois.
Et pour lui-même, ça a été très, très important. Donc, en particulier des textes des Upanishads, mais il s'intéressait aussi au yoga. Et il se demandait si le yoga n'était pas un équivalent du processus d'individuation et si le yoga ne conduisait pas justement à éveiller cette dimension d'être, ce soi, dans l'être humain. Donc, petit à petit, je me suis engagée dans une étude de ces textes. Et venant assez longtemps après lui, je bénéficiais d'un travail d'indianiste, en particulier d'indianiste français, qui était un travail qui avait beaucoup avancé. Et donc, j'ai fait moi-même des études indiennes, fait du sanskrit, pour accéder plus directement à ces textes. Et de fil en aiguille, donc je me suis mise à explorer les voies de l'hindouisme. Ces chemins qui sont des chemins nombreux et divers, parce que l'hindouisme est à la fois une culture commune, partagée dans le sous-continent indien, et en même temps n'a jamais été unifiée. Donc, voilà, c'est un nouveau travail, grand travail à commencer, qui était d'explorer l'hindouisme.
Oui, en effet, d'ailleurs, vous avez publié en 2007 chez Albin Michel un livre qui s'intitule « Un milliard d'hindous, histoire, virgule, croyance au pluriel ». Et mutation au pluriel aussi. Donc, on voit bien, alors, entre le milliard d'hindous, on a presque l'impression qu'il y a un milliard de chemins, et le pluriel des croyances, on voit qu'effectivement, dans ce grand tout que nous appelons hindouisme, il y a un foisonnement dont il ne suffirait pas d'une vie pour l'explorer, il me semble, Isette Ardon-Masquelier.
Oui, absolument. C'est impossible en une vie.
Mais c'est pas grave, puisque dans l'hindouisme, alors ça, pour le coup, c'est commun, on a plusieurs vies. Donc,
oui, on a plusieurs vies, c'est vrai. Mais il y a des moments qui sont des moments très importants et qu'on peut repérer. Et en particulier, le moment que je trouve fascinant, c'est le moment où des sages fondent des écoles de sagesse, un peu sur le mode grec, et ils produisent des textes qui sont issus de leur expérience d'intériorisation. Donc, on est à la même époque que le Bouddha, à peu près, grossièrement.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, on est entre... Enfin, ça commence plus tôt, disons vers le 8e siècle avant notre ère, mais la grande période de ces productions de textes, c'est le 6e, 5e siècle avant notre ère. Donc, c'est exactement la période du Bouddha. Et ces sages repensent leur ancienne religion, la religion dans laquelle ils ont été élevés, la religion védique, et ils vont en extraire une sagesse. Donc, ils sont critiques par rapport à cette ancienne religion, parce que c'est une religion qui est extrêmement rituelle, parce qu'elle est violente, pratiquant des sacrifices. Et ils en intériorisent la dimension pour mettre en avant l'idée d'un absolu qu'ils appellent Brahman et de sa présence dans l'être humain, qu'ils appellent Atman, qui se traduit par « soi » ou « le soi ».
Avec un S majuscule, alors ça c'est le soi qui n'est pas du tout l'ego, bien sûr.
Oui. Ce que ce mot, qui est un neutre, dit seulement, c'est « soi-même ». C'est-à-dire, dans « soi-même », il y a l'idée d'un chemin qui est un chemin de réflexion au sens presque physique du terme. C'est-à-dire, « soi-même », c'est l'idée d'aller en soi, que le chemin qui permet d'accéder à l'absolu, il est un chemin d'intériorité. Donc, du coup, ils ont sondé les profondeurs de l'âme. Et en ceci, ils ont été extrêmement novateurs, parce que ils ont découvert ce qu'était la force du désir, ce qu'étaient les passions, mais ce qu'étaient les sens aussi, les émotions. Et ils ont fondé les prémices de la psychologie, les prémices d'une pédagogie aussi, pédagogie mystique, transmission de maître à disciple.
Et qui passe par la maîtrise justement des passions. En cela, c'est très semblable aussi à la philosophie grecque, finalement, à la sagesse grecque.
Qui passe à la fois par la maîtrise des passions et par l'abandon à une dimension autre,
oui,
qui est une dimension d'être, d'absolu, inaccessible à l'être humain, mais qui le travaille de l'intérieur et qui peut l'éveiller à une autre dimension.
Alors, Isée Tardan-Masquelier, puisque vous parlez des sages de l'Inde, alors vous parlez de sages très anciens, mais vous nous avez apporté un très beau texte de Lala, qui, d'une certaine façon, explique de manière poétique ce que vous venez de le dire. Alors, elle est beaucoup plus tardive, bien sûr. Elle est c'est une poétesse, si je ne m'abuse, du XIVe siècle.
Oui, on pense qu'elle a vécu dans la deuxième moitié du XIVe siècle.
Donc c'est une grande époque pour la mystique, je dois dire, hein, que ce 12e jusqu'au 15e siècle, ça a été vraiment trois grands siècles.
Particulièrement au Cachemire,
oui,
où il y a eu cette école des mystiques cachemiriens qui s'est développée depuis le 9e siècle. Et elle est l'une des dernières de cette grande période mystique au Cachemire.
Voilà, alors avant de lire son texte, peut-être nous dire deux mots de qui elle est. C'est vrai qu'au tout début de la saison radiophonique, j'avais déjà lu un texte d'elle lors de l'émission que nous avions faite avec Marie de Henzel. Et je suis vraiment ravie de la retrouver ici avec vous. Mais peut-être que vous pourriez nous dire deux mots de qui elle était et ce que veut dire le fait qu'elle fait partie de la tradition de l'hindouisme shivaïque.
On sait assez peu de choses sur elle, assez peu de choses certaines. On pense qu'elle était femme de Brahman et qu'une fois veuve, elle a décidé de ne pas se soumettre aux règles très sévères qui concernaient le veuvage, de partir seule sur les chemins du Cachemire et de vivre une spiritualité assez radicale qui est le shivaïsme tantrique. Alors, ça, c'est l'une des nombreuses voies de l'hindouisme qui se consacre à la dévotion du dieu Shiva, qui est un dieu d'énergie et de transformation, un dieu qui relie la mort et la vie, Il y avait dans cette région du Cachemire des rites shivaïtes qui étaient secrets, qui reposaient sur des exercices de conversion de l'énergie qu'on retrouve dans certaines formes de yoga. Et Lala était l'héritière de cela. En même temps, ce qui est vraiment intéressant chez elle et pourquoi je l'aime aussi, c'est qu'elle est dans un monde qui jouxte le monde musulman. Et elle a été en relation avec un soufi qui venait probablement d'Amadan. Et est-ce qu'elle a reçu des enseignements de lui ? On n'en sait trop rien, mais il y a une grande universalité dans ses poèmes.
Oui, et il y a cette idée que vous avez évoquée aussi tout à l'heure et qui est très proche du soufisme, à moins que ce soit le soufisme qui se soit inspiré de l'hindouisme, ce qui est fort possible. C'est l'idée, effectivement, que il faut tout chercher en soi. C'est-à-dire, c'est par ce cheminement à l'intérieur de soi qu'on peut arriver au grand autre, qui n'est pas vraiment nommé finalement, et qui est ce grand autre, cette transcendance dont nous avons parlé tout à l'heure.
Il y a cette mystique de la divinité cachée au cœur de l'homme, et qui aimante sa quête.
Et qui est commun à, finalement, tous les mystiques, quelle que soit leur tradition religieuse. C'est une traduction de Bruno. À réciter encore, je me suis fatigué la langue et le palais. Pourtant, jusque à toi, jamais mes pratiques ne se sont élevées. À égrener le rosaire, je me suis usé le pouce et l'index. Pourtant, la dualité n'a point encore quitté ma pensée. Bien qu'il soit au-dedans, je l'ai d'abord cherché au-dehors. Puis le souffle subtil a purifié mes vaisseaux internes. Grâce à la contemplation, je ne vois plus au monde que Dieu seul. Les formes de l'union s'étant perdues. Moi, Lalla, j'apaisais l'amour dans le feu de l'amour. Avant la mort, je mourus tout entière, libre de formes dans ma nature profonde. Combien de formes n'ai-je pas déployées ? Le moi disparu, que ferais-je ? Dans la perte, j'ai perdu la perte. La perte perdue, je suis revenu à l'océan de l'existence. Riant, jouant, j'ai obtenu la révélation de l'essence ici même, de ce que je dis là, j'ai fait en moi l'épreuve.
Les discussions du soir, Lélie Anvar.
Alors, peut-être quelques mots encore, Isée Tardan-Masquelier, sur ce texte et sur cette tradition qui évidemment est radicalement mystique. C'est pas comme d'autres voies dont nous allons parler, par exemple celles du yoga, qui sont quand même plus accessibles au commun des mortels que nous sommes. Mais néanmoins, il me semble qu'il y a dans ces poèmes de Lala quelque chose quand même qui peut être inspirant pour notre vie. C'est-à-dire, bien sûr, c'est une mystique radicale, bien sûr que c'est une mystique de l'union, bien sûr qu'on retrouve ça chez Thérèse d'Avila ou Maître Eckhart ou Rumi, et que ça paraît inaccessible. Mais néanmoins, il me semble que cette brûlure est quelque chose qui peut habiter notre vie, y compris la plus quotidienne, et même sans être obligé d'aller errer sur les routes de l'Inde, ce que vous avez fait quelquefois, mais pas comme Lala.
Pas comme ça, non. Voilà. Non. Finalement, elle dit des choses qui sont tout à fait compréhensibles. Elle dit d'abord, les pratiques, c'est bien, mais ça ne fait pas sortir de la dualité.
Oui, c'est intéressant parce que ces pratiques sont les mêmes que dans toutes les religions. Enfin, le rosaire, la prière, etc.
Ben, oui. Le rosaire, c'est le rosaire shivaïte, les renonçants shivaïtes, les graines. Elle dit, quoi qu'on fasse, et même si on le fait 24 heures sur 24, ça ne fait pas sortir de la dualité, c'est-à-dire de cette différence entre une âme individualisée et l'absolu. Bon. Ensuite, elle fait allusion au yoga en parlant du souffle.
Oui.
Voilà. Et puis en parlant de la contemplation qui fait partie du yoga. Les états contemplatifs et méditatifs font partie d'un yoga véritable. Et là, on sent que y a une autre dynamique qui s'enclenche, qui va être une dynamique de fusion. Et puis ensuite, dans des vers qui sont magnifiques et qui peuvent peut-être interroger ou sembler un peu ésotériques, elle dit « Dans la perte, j'ai perdu la perte ». Alors, ça n'est pas facile à interpréter. Moi, je le vois comme cela parce que d'autres le disent aussi en Inde. Il y a un moment où cette union mystique, elle est tellement vécue et intériorisée qu'on n'a plus besoin d'être intentionnellement dans le renoncement. Un ascète mystique dit renoncer au renoncement lui-même.
Ce qui serait le véritable abandon, finalement.
Voilà. Mmh. Et du coup, revenir à la vie, chanter, danser. Ça, c'est sans doute une référence aussi au moment extatique, mais c'est aussi une référence à la vie, toute simple. Et ailleurs, Lala, comme d'autres mystiques cachemiriens, disent Shiva est partout, et il est dans tout. Donc il n'y a pas à se séparer du monde, et il y a à renoncer à l'idée même de renoncement une fois qu'on a fait ce grand travail, ce grand travail de détachement. Alors, ce sont des choses qu'on peut comprendre.
Qu'on peut comprendre et qui, effectivement, rappellent furieusement, finalement, le yoga dans le sens le plus large du terme, puisque c'est vrai que toutes ces thématiques, le lâcher prise, c'est jamais, si on veut lâcher prise, on n'y arrive pas. Il faut lâcher prise, y compris pour le lâcher prise. Vous qui avez dirigé une école pour les enseignants de yoga, je suppose que ça fait partie des premières choses qu'on leur enseigne, c'est de ne pas entrer dans un travail volontariste, y compris sur l'abandon. Et évidemment que c'est difficile, mais en même temps, c'est praticable par tout un chacun.
Oui. Le lâcher-prise, c'est une question très subtile.
Oui.
Parce qu'il ne faudrait pas confondre non plus le lâcher-prise et le laisser-aller.
Exactement.
Qui ne mène pas à grand-chose. Donc, lâcher-prise, c'est s'abandonner, c'est abdiquer une part de son empire sur soi-même. Et c'est en même temps accepter d'être transformé et de se soumettre à cette transformation, ce qui est un travail.
Voilà. Voilà. Alors, du coup, dites-nous comment vous avez commencé votre exploration du yoga, comment ça a été à la fois un sujet de recherche universitaire, puisque vous travaillez sur les rites et les croyances de l'Inde, donc évidemment vous ne pouvez pas vous passer du yoga. Et en même temps, comment ça a été peut-être en même temps, en parallèle, je ne sais pas, une pratique personnelle. Mais vous disiez vous-même qu'on ne peut pas comprendre ces choses si on n'en a pas une expérience
vécue. Pour le yoga, c'est sûr. Alors vraiment, autant on peut dire qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans une longue psychanalyse pour travailler sur Jung, sur Freud ou sur Lacan, autant en ce qui concerne le yoga, il est évident qu'il faut en avoir une expérience. Alors, elle a commencé tout simplement quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Voilà, et cette expérience du yoga m'a accompagnée au cours de toute ma vie. Enfin, la pratique régulière du yoga, et que ce soit les postures ou la respiration ou une simple présence à soi-même, est un fil rouge ou un fil d'or dans ma vie. Peut-être ce qu'il y a de plus spécifique dans mon parcours, c'est que j'ai voulu lier à cette pratique un travail à la fois intellectuel, personnel et institutionnel. J'ai voulu faire une école de formation d'enseignants de yoga, bien que finalement je n'ai jamais enseigné le yoga, ou à peine. Et cette école de formation d'enseignants de yoga, l'école française de yoga, peu à peu est devenue un élément central dans ma vie, puisqu'on m'a demandé d'y enseigner sur l'hindouisme, sur les grands courants de l'hindouisme. Et puis, ensuite, j'en suis devenue la directrice.
Alors, est-ce que, justement, puisque vous parlez de yoga et de l'enseignement sur l'hindouisme, est-ce qu'on peut pratiquer un yoga complet, vraiment digne de ce nom, si j'ose dire, sans en même temps avoir une idée précise des fondements spirituels et religieux, philosophiques de cette pratique? Est-ce que faire du yoga juste comme un exercice physique, c'est pas quand même passer un peu à côté du yoga? Parce que c'est quand même très souvent comme ça que c'est
Vous évoquez des questions que je n'ai cessé de me poser et que je continue de me poser aujourd'hui. Je dirais que le yoga bien-être me semble une réduction de ce qu'est vraiment le yoga. Mais j'ajouterais que c'est une porte d'entrée. Et que bien souvent, j'ai vu des personnes qui faisaient du yoga uniquement pour évacuer leur stress, par exemple, et qui ont finalement commencé un chemin qui les a menés beaucoup plus loin. Donc ne soyons pas trop méprisants, d'une certaine manière. Mais quand des maîtres de yoga ou des professeurs de yoga théorisent l'idée qu'il y aurait un yoga qui serait purement corporel d'un côté, et puis d'autre part, des exercices de méditation qui pourraient être tout à fait détachés du yoga.
Mais qu'on appelle quand même yoga en Inde.
Qu'on appelle quand même yoga en Inde. Ils déstructurent justement cette unité du yoga qui comporte les états méditatifs, et je crains que ça ne soit refaire un dualisme qui est un peu le poison de notre Occident, hein, entre des postures qui seraient corporelles et puis un travail de l'esprit, un travail méditatif qui serait purement un travail de l'esprit, du mental et un travail spirituel. Donc là, je serais tout à fait claire en disant que le yoga est une voie unitive. C'est le sens même d'ailleurs du mot yoga, unir, réunir. Voilà. Donc... aujourd'hui, alors, il y a une mondialisation du yoga, un succès qui est incroyable, un va-et-vient entre cette pratique venue d'Inde qui vient se transformer pour répondre aux besoins d'occidentaux, qui repart en Inde de telle manière qu'on trouve à Bombay, à Delhi, des salles de pratique de yoga qui sont vraiment modelées sur les salles qu'on trouve à New York ou ailleurs, ou à Singapour. Donc là, il y a besoin de repères. Et à l'École française de yoga, et puis dans la fédération dont je fais partie, la Fédération nationale des enseignants du yoga, cette question des repères est une question qui est très importante, et d'une éthique et d'une déontologie de la profession d'enseignant de yoga.
Alors comment, justement, ils étaient dans masculin, comment l'Inde elle-même... L'Inde originelle, s'entend pas celle mondialisée qui fait du yoga à la mode occidentale. Donc comment les grands penseurs, les premiers grands penseurs du yoga ont, je dirais, présenté cette dimension spirituelle du yoga, c'est-à-dire et le lien entre corps et âme, et pourquoi c'est une discipline qui peut énormément aider dans un cheminement spirituel. Pour faire simple, évidemment c'est une question énorme, hein, mais peut-être qu'on pourrait... donner quelques pistes pour qu'on comprenne bien en quoi le yoga est une discipline corporelle ou spirituelle et que ça peut aider même des gens qui ne sont pas du tout hindouistes, qui sont dans toute autre tradition ou dans aucune tradition, à retrouver cette unité intérieure de l'être.
Mais je pense déjà que il disposait d'une conception du corps qui était beaucoup plus riche que la nôtre. C'est-à-dire que le corps n'est pas seulement l'enveloppe charnelle que nous connaissons et que nous reconnaissons comme nôtre quand nous disons « mon corps », mais le corps indien était conçu comme une réalité formée d'enveloppes successives. Et les postures, les exercices de souffle, permettait d'explorer ces enveloppes successives en allant du plus extérieur vers le plus profond. Et au plus profond, siège, invisible, inaccessible, comme j'ai dit, le soi. Et donc, le yoga est une voie qui permet de parcourir ces enveloppes successives. Et là, il y a un continuum entre ce que nous appelons le corps et ce que nous appelons le psychisme et l'esprit. Il n'y a pas de rupture. Le yoga parcourt du bord le plus externe à la fine pointe de l'âme des étapes et la pratique permet d'avancer sur ce chemin. Et je crois que si on ne prend pas en compte ce fond ancien, qui a été travaillé après de mille manières en Inde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un yoga traditionnel, ça n'existe pas, ça c'est une mythologie d'occidentale. Il n'y a pas une Inde qui n'aurait pas évolué, il n'y a pas aujourd'hui en Inde des traditions de yoga ou des traditions d'hindouisme qui seraient nées avant notre ère et qui n'auraient pas bougé depuis lors. Mais il y a ce fond de notions sur l'expérience corporelle et psychique. Et ça, ces notions-là sont encore vivantes dans le yoga qui se pratique.
Et c'est peut-être la preuve même du fait que c'est une pratique ou une science, une connaissance vivante, puisque si ça restait rigidifié, ce serait exactement le contraire du yoga qui prône au contraire la souplesse dans tous les sens du terme. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus passionnant, en tout cas dans ma propre expérience du yoga, c'est que ça apprend la souplesse du corps, mais cette souplesse du corps amène aussi une souplesse du psychisme, c'est-à-dire une fluidité, une ouverture, une... Je ne sais pas vraiment comment l'exprimer, peut-être que vous l'exprimeriez mieux que moi, Isédard Damascelier.
Je vais l'exprimer par un exemple. Quand vous travaillez des postures debout, ou bien les postures assises dans lesquelles votre colonne vertébrale s'érige, y a une rigueur. Et vous entendez dans le mot rigueur que il y a à la fois de la dimension corporelle et il y a de la dimension psychique, je dirais éthique. Bon ben voilà.
Absolument.
C'est ça que le yoga fait en nous, si nous acceptons de nous laisser faire et si nous avons des enseignants de yoga qui sont bien formés.
C'est-à-dire, vous voulez dire que la rigueur mène à la souplesse? Parce que mon idée, c'était ça, c'est que finalement, ça rend moins dogmatique. J'ai l'impression que ça rend l'esprit moins dogmatique.
Non, c'était un exemple que je donnais du fait que la construction de la verticalité amène aussi une rigueur psychique, morale. Je pense que ce mot de souplesse, le yoga nous le fait entendre à la fois sur un plan corporel et sur un plan psychique et spirituel. C'est-à-dire que dans la perspective unitaire du yoga, assouplir son corps, c'est aussi assouplir son esprit. C'est acquérir une sorte de souplesse globale. De même que le lâcher prise que nous évoquions tout à l'heure et qui est évidemment très, très en rapport avec la souplesse, c'est un lâcher prise corporel, mais c'est surtout un lâcher prise mental.
Oui, donc les deux sont absolument liés et c'est lié peut-être aussi à ce qu'on disait tout à l'heure de cette diversité de l'hindouisme, c'est-à-dire c'est quand même une culture, une philosophie dans laquelle, alors maintenant il y a des rigidités comme partout et de dogmatisme comme partout, mais fondamentalement qui reste très ouverte aux multiples, j'ai l'impression. Et que dans cette grande unité qui est recherchée, finalement, il y a la place pour tout le monde.
Oui, c'est vrai, parce que l'effort d'unification qui a caractérisé nos cultures religieuses d'Occident ne s'est pas accompli de cette manière. Alors, il y a un ordre du monde, il y a un ordre des choses, il y a un ordre de la société qui, d'un certain point de vue, est extrêmement rigide. Mais il y a une place qui est faite à l'inventivité et à la créativité de l'expérience spirituelle qui est étonnante.
Est-ce que c'est ça qui vous a amené à cette variété, cette créativité qui vous a donné envie de créer au sein de l'Institut catholique, donc un certificat dont vous allez nous dire deux mots, hein, d'enseignement justement de ces cultures et traditions de l'Inde.
Une formation qui peut être en un an avec un certificat ou en deux ans avec un diplôme universitaire sur les cultures et spiritualités d'Asie. Bien oui, d'une certaine manière, c'est le sentiment que cette diversité était déconcertante. Et c'est bien d'être déconcerté, mais aussi il faut certains repères. Et une des lignes de mon travail, ça a été ce que les universitaires appellent la vulgarisation. Alors, vulgarisation, ça nous fait penser à l'adjectif vulgaire. C'est une activité qui serait une activité, un peu une sorte de succès d'année des études universitaires. Mais pour moi, c'est quelque chose de très important. Il y a une dimension éthique de la vulgarisation qui consiste à permettre à des personnes qui sont intéressées, dans le cas précis du DU culture et spiritualité, d'Asie, des voyageurs, des humanitaires, des gens qui vont être nommés dans des grandes entreprises en Asie, ou des personnes intéressées par l'Orient à un titre ou à un autre, des pratiquants de yoga, de tai chi, etc., leur permettre d'accéder à la cohérence de ces grandes cultures d'Asie. Ça fait une formation très originale où on a des cours une journée par semaine et où on a des introductions à l'hindouisme, au bouddhisme, aux sagesses chinoises. On a une introduction au corpus textuel qui sont si divers, si importants. Dans la deuxième année, on apprend les rudiments du sanskrit. Et avec ces rudiments, on apprend une logique, on apprend des concepts. Il y a un travail aussi d'expérimentation. Dans ce DU, les gens peuvent éventuellement valider un cours de yoga. Et bon, c'est une formation vraiment, vraiment originale.
Et très complète. Bon, les auditeurs qui s'y intéressent pourront trouver sur notre site les liens et tous les renseignements pratiques nécessaires. Je voudrais pas finir cette émission sans que vous nous disiez deux mots aussi d'un événement que vous avez co-organisé avec la Fédération nationale justement des enseignants de yoga, un événement qui n'a lieu que tous les 4 ans, donc qui mérite d'être cité. Ça se passe du 25 au 28 mai à 3, et ça s'appelle, donc ce sont les assises nationales de la Fédération nationale des enseignants de yoga, et le titre était très beau, c'est le souffle du temps, rythme, rites et métamorphose. Juste un mot avant de finir l'émission, Isette Ardan-Masquelier, sur ces assises, donc autour du yoga, du souffle surtout.
Dans ce titre, il y a deux mots importants qu'on a articulés ensemble. Le souffle, bien sûr, parce que il est essentiel dans le yoga et que nous le prenons aussi dans un sens plus vaste que simplement la respiration. Mais c'est ce qui anime un élan. C'est ce qui anime une époque aussi. Et c'est ce qui peut manquer à une époque. Donc voilà, ceci c'est important. Et puis le temps, très concrètement, ça va être les 50 ans de cette fédération qui est née justement pour qu'un yoga authentique puisse continuer d'exister en Occident. Et donc c'est notre temps de notre fédération, c'est ce que nous avons essayé de faire en 50 ans, mais c'est aussi le moment présent. Avec des questions qui sont essentielles, questions autour de ce qui nous fonde, nos valeurs, questions autour de ce que nous partageons, nous vivons ensemble, questions autour de comment nous pouvons accueillir le changement, d'où le sous-titre « rythme, métamorphose ».
Eh bien, merci beaucoup, Isette Ardan-Masquelier, d'être venue évoquer avec nous, justement, ce souffle qui a soufflé, justement, de Jung jusqu'aux confins de l'Inde. C'était les discussions du soir par Lélian Var, attachée de production Thierry Beauchamp, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Benjamin Vignal. Excellente fin de soirée à tous.